Nous sommes au printemps 2016. Avec le retour des beaux jours, les traversées de la Méditerranée ont repris. Chargées comme jamais, les embarcations sont repérées par les gardes-côtes. Des sauvetages délicats. Mais à Boutner, certains paniquent. En 2016, nombreux sont ceux qui n'auront pas eu la chance d'être secourus. 5000 en tout, selon l'ONU.
Bienvenue dans l'atelier des médias. Il y a les milliers de personnes mortes en Méditerranée ou sur les routes. Il y a la violence des démantèlements de camps à Paris, Calais ou ailleurs. Il y a aussi le déshonneur des États européens et de l'Union qui se cache derrière le règlement Dublin III pour éviter de répartir équitablement les demandeurs d'asile sur le continent. Voilà bientôt 10 ans que l'Europe traverse ce que l'on appelle une crise migratoire. Voilà bientôt 10 ans donc que les médias couvrent les évolutions normatives européennes et les drames humains que ces mouvements de population provoque. Une voix est trop souvent absente de ces récits, celle des enfants, des femmes, des hommes qui ont entrepris le voyage pour fuir qui la guerre, qui la faim, qui le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de projets qui donnent la parole aux premiers concernés du phénomène migratoire. Des médias pour dire l'exil, c'est un atelier signé Mathilde Saliou, Ziane Malouf, Simon de Creuse.
Ça fait bientôt 4 ans que je vis au nord de Paris et que je côtoie quotidiennement des personnes réfugiées autour de chez moi. Au fil du temps, plus de 1500 personnes se sont installées près des stations Stalingrad et Porte de la Chapelle, avant que des expulsions violentes ne les en fassent partir l'été dernier. Depuis, elles ont construit d'autres camps, un peu en contrebas, vers la station Jaurès notamment. Ces migrants vivent dans les rues que je traverse, mais je ne les entends quasiment jamais et je ne sais pas grand-chose de ce qu'ils ont vécu. En cherchant à mieux comprendre leur situation, j'ai découvert que des bénévoles sensibles à ce silence avaient créé différents outils pour offrir aux personnes réfugiées des moyens d'expression. Ces outils, ce sont des médias. Car accéder à un média, c'est une façon de se retrouver, de créer du lien social ou d'échanger sur les situations vécues. C'est aussi une manière de se faire entendre et de faire connaître son point de vue, son regard sur le monde. Et parfois, quelques traits sur une feuille suffisent.
Il y a ce dessin qui est pour moi un dessin très fort, qui est une distribution de nourriture en fait à la porte de la chapelle. On voit une rangée de personnes qui attendent et en face d'eux, deux bénévoles qui distribuent du café, du thé. À côté aussi, on voit des petits bonhommes qui sont en train d'essayer de dormir entre des pierres. Et c'est des pierres en fait que la mairie de Paris a déposées justement à cet endroit-là pour empêcher les migrants de s'installer. Donc on voit là les deux mouvements un peu contradictoires, les deux forces qui s'opposent un peu à Paris en ce moment. C'est-à-dire d'un côté des bénévoles qui essaient d'organiser l'accueil, qui essayent d'aider des gens qui n'ont rien. Et ensuite ces pierres qui essayent de repousser un peu plus loin ces populations pour les rendre invisibles et pour les faire disparaître du paysage de Paris. Je m'appelle Audrey. L'association et le collectif auquel j'appartiens, c'est Dessins sans papier. C'est un collectif qui organise des ateliers de dessin dans les centres d'hébergement et aussi dans les camps, puisqu'on a commencé dans la rue, dans le 18e arrondissement, sur le camp de la Alpajol en 2016.
Audrey est une Parisienne, comme vous peut-être, comme moi en tout cas. Il se trouve qu'elle habite non loin de ce qui est depuis quelques années le cœur de la géographie migratoire à Paris. Un triangle qui va de la place Stalingrad à la porte de la Villette d'un côté et jusqu'à la porte de la Chapelle de l'autre. Triangle au sein duquel se trouvait le camp de la Halle Pajol, du nom donné au regroupement de tentes de réfugiés installés rue Pajol et évacués à l'été 2016.
J'avais des amis qui aidaient donc à la logistique du camp, qui participaient à la fois à la cantine et qui faisaient aussi du soutien juridique. Et j'avais envie de faire plus que d'apporter des vêtements ou de la nourriture.
Audrey a donc choisi de passer du temps avec les habitants du camp et de leur permettre de se raconter, grâce aux médias universels par excellence, le dessin.
Alors, le premier atelier, on l'a organisé, et je m'en souviens très bien, la veille de la fête de la musique. C'était le 20 ou le 19 juin 2016. Et j'ai passé une après-midi avec eux, en apportant un bloc de feuilles, des crayons. On a passé toute l'après-midi à dessiner, certains sur des poubelles, d'autres par terre, sur des cartons. C'était vraiment une après-midi qui a changé beaucoup de choses pour moi. Et puis aussi, je pense que ça a aussi, les dessins, c'est vraiment là qu'ils ont révélé en fait le pouvoir qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'on les a accrochés en fait le lendemain. Et les gens qui avaient l'habitude de passer le long de ce camp et qui ne s'arrêtaient pas, soit par timidité, soit simplement parce que l'apparence d'un camp comme ça est parfois froide et étrange, tout d'un coup se sont arrêtés, ont commencé à regarder les dessins. Et c'est vraiment là qu'on a compris que ces dessins, c'était un petit trésor et qu'il fallait absolument les chérir et essayer de les diffuser le plus possible.
Tu dis « il », mais c'est qui en fait les gens qui sont présents dans ce camp ?
En fait, il y a eu plusieurs crises à Paris avant justement que la mairie prenne en charge ce camp. C'est donc des personnes qui venaient d'arriver à Paris pour la plupart par une route qu'on connaît bien qui est la traversée des Alpes. Ils remontent en fait par Nice, l'Italie, et puis ensuite il y a une première étape à Paris et ensuite c'est Calais. Ce sont bien souvent des gens qui ne veulent pas demander nécessairement l'asile en France mais qui cherchent plutôt à rejoindre l'Angleterre et qui sont dans des phases de transit à Paris. Dans le 18e, en fait, plusieurs tentes ont commencé à s'installer, et puis ensuite un camp. Voilà, ce sont des personnes qui viennent du Soudan, d'Érythrée, d'Éthiopie, d'Afghanistan, qui ont fui leur pays pour des raisons que maintenant, aujourd'hui, on arrive à connaître et comprendre, et qui, voilà, étaient dans des situations de dénuement assez extrêmes.
Qu'est-ce qui nous reste quand on a la main vide ? On se prépare pour le voyage ? On se jette sur la mer. Quel qu'en soit l'alpha, on vit ou on meurt pour la dignité. Nous ne sommes pas des bétails qu'on doit manipuler. Nous sommes des êtres vivants aussi. On doit être traités de même pied égalité. Dernier mot.
Du premier atelier, le 20 juin 2016, Audrey acquiert la certitude que les dessins de réfugiés ont un véritable pouvoir de témoignage et d'édification. Elle fonde une association afin de poursuivre sa démarche. C'est d'ailleurs l'un des dessinateurs, l'un des réfugiés, qui trouve le nom « Dessin sans papier ». Depuis sa création, la structure développe différentes activités autour de l'animation d'ateliers.
Alors, en fait, les ateliers changent selon les endroits où on les fait. Quand ce sont des ateliers qu'on organise sur les camps, ce sont un peu des ateliers d'urgence, c'est-à-dire qu'on se pose un peu où on peut, on dessine, on passe l'après-midi, on sert un peu de média, en fait. C'est-à-dire que les dessins qu'on recueille, on s'engage à les scanner, à les mettre en ligne, à les diffuser, parfois en faire des livres, mais surtout organiser des expositions et les diffuser le plus possible.
Pour faire connaître ses dessins, le collectif expose dans des librairies ou des espaces associatifs à Paris, à Nantes ou encore à Sète. Entre 2017 et 2018, il a aussi publié 3 livres. Le premier, qu'Audrey tient dans ses mains, a pour titre le nom de l'association, Dessins sans papier.
Alors si je le prends là par exemple. Donc ça c'est le premier recueil qu'on a fait à l'issue de la première année en fait, des ateliers qu'on a menés. Il y a plus de 200 dessins et il y a aussi une dizaine de témoignages traduits en anglais de personnes qui ne racontent pas nécessairement leur histoire, mais racontent l'histoire des dessins. Puisque pendant les ateliers, on ne va pas faire d'interrogatoire. On sait qu'ils subissent déjà ces questions en permanence de la part de l'administration. Donc l'idée, c'est évidemment que tout le monde dessine ce qu'il a envie de dessiner. Et puis, s'il en a envie, de parler et d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ce dessin-là en particulier et ce que raconte le dessin. Et donc, il y a évidemment des scènes de guerre au Darfour, des bombardements, des soldats qui arrivent dans des villages et qui brûlent tout. Il y a aussi des scènes très violentes qu'on voit dans les dessins des personnes qui viennent d'Afghanistan, avec là encore une fois des bombardements.
On voit la mer aussi, là je viens de voir passer une page très bleue.
Il y a effectivement beaucoup de dessins de traversées, beaucoup de bateaux, beaucoup de scènes qui sont peut-être un peu adoucies par le dessin, mais qui restent quand même assez violentes. Et puis, il y a toutes ces fleurs, et puis il y a tous ces messages d'amitié. On a des tours Eiffel, on a des images des camps, on a aussi des symboles de la culture, d'où ils viennent. Et je pense que c'est aussi très important pour nous de montrer voilà, toute la sophistication, toute la beauté de ces cultures qu'on a la chance de rencontrer pendant les ateliers. Ces dessins ont vraiment une force d'évocation et une force de témoignage qui est assez puissante et c'est aussi pour ça qu'on essaye de les diffuser le plus possible. Ils nous ramènent à une humanité qui est vraiment universelle, je crois, et qui permet justement de désamorcer et de désactiver beaucoup d'hostilité et surtout une forme de xénophobie qui naît de l'incompréhension ou de la peur. Donc ces dessins sont vraiment hyper forts, hyper puissants.
Le recueil « Dessins sans papier » réunit les œuvres de dizaines de personnes différentes dans une sorte de kaléidoscope de ce que vivent les migrants. Pour les publications suivantes, plutôt que de rassembler un florilège de dessins, l'association a choisi de se concentrer sur un seul migrant, un seul dessinateur. Son deuxième livre s'appelle « Le voyage de Hafiz el-Soudani ».
Alors, le voyage de Hafiz, c'est vraiment une histoire qu'on a faite à trois, en fait, puisque Hafiz ne parlait pas le français au moment où on l'a rencontré. Et en fait, les dessins ont d'abord été le moyen pour lui de nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Donc, on l'a rencontré, Hafiz, à la porte de la chapelle, au moment où il y avait vraiment un grand camp à la porte de la chapelle, devant la fameuse bulle de la mairie de Paris. Il était dehors, malheureusement. Il était arrivé depuis à peu près 2 semaines et il était vraiment désorienté. Et donc on s'est rencontrés, je lui ai proposé de venir se reposer à la maison. Et puis voilà, on est devenus amis parce que c'est vraiment une personne vraiment extraordinaire. Pas seulement parce qu'elle fait des dessins magnifiques, mais c'est aussi parce que voilà, ça fait partie des rencontres qu'on fait pendant les ateliers qui sont importantes. Et je pense aussi que la vocation des ateliers a changé aussi pour ça, c'est-à-dire qu'au départ on récoltait des dessins, maintenant on a beaucoup de dessins. On a recueilli plus de 1500 dessins je crois depuis 2016 et maintenant j'ai l'impression que c'est plus des espèces de petites délégations de Français et d'amis qu'on constitue comme ça pour aller dans les centres, pour passer des moments avec eux, parce qu'on se rend compte qu'ils sont souvent très isolés, ce sont des centres qui sont vraiment très très loin en banlieue, et ce sont des personnes qui ne sont pas en contact avec des Français de la vie civile. Donc l'idée c'est aussi de leur montrer que les Français peuvent être cool et voilà, et de passer des après-midi ensemble, tout simplement. Et donc Hafiz, donc on a travaillé avec une interprète qui nous a aidé à traduire son histoire. On l'a consigné dans son livre et c'est un livre qui, on est assez fiers de ça, aussi traduit en arabe et en anglais. Et ce livre nous a permis de pouvoir obtenir un recours contre son expulsion en Italie puisque Hafiz était dubliné.
Dubliné, néologisme qui fait référence aux accords de Dublin. Selon ces accords, un réfugié est censé rester dans le premier pays européen dans lequel il est arrivé en attendant que son dossier soit étudié.
Donc aujourd'hui, Hafiz peut rester en France, il ne sera pas expulsé en Italie. Et de toute façon, pour nous, c'était un combat vital puisque s'il était rentré au Soudan, il aurait été récupéré par la police et probablement condamné à mort.
Mais donc ce que tu viens de dire, c'est que le dessin, au-delà d'être un simple moyen d'expression, peut même devenir un véritable outil pour les réfugiés ?
Je ne sais pas si vraiment on peut dire que c'est un outil. Ce qu'on sait, c'est que ces livres-là, en tout cas, ce livre, le livre de Hafiz, l'a clairement aidé à pouvoir annuler son dublinage et pouvoir rester en France. Et pour Mohamed, c'était encore un autre combat, puisque lui, il a vraiment aussi fait preuve, enfin, était l'objet d'une injustice, mais que beaucoup d'autres mineurs isolés rencontrent quand ils viennent en France à 16 ans, 17 ans et qu'on fait trôner leur dossier et que finalement ils n'obtiennent bien souvent que quelques mois de protection avant leurs 18 ans.
Le Mohamed que mentionne Audrey, c'est Mohamed Ndepe Tahar, l'auteur du dernier recueil de dessins sans papier. Le livre qu'il signe s'appelle « Le journal de Mickey le Vieux », une référence au journal de Mickey, que Mohamed adorait lire quand il était enfant, et au surnom dont sa grand-mère l'a affublé dès ses 4 ans, « Le Vieux ».
Mohamed, c'est un jeune qui est parti de 16 ans de Douala, qui a tenté l'aventure avec un ami qui s'appelle Labré. Et c'est vraiment les pages scannées de son journal qu'on a présentées avec des dessins pour retracer son parcours. C'est des textes vraiment émouvants qu'il a vraiment écrits avec à la fois beaucoup de spontanéité et une façon de parler le français, de s'approprier la langue qui est tout à fait étonnante et très poétique. Ça, c'est les trois barrières que Mohamed a dessinées, en fait, au moment du passage de la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Donc, il y a trois barrières de 7 mètres de haut qui séparent le continent africain de l'Europe. Ces barrières sont gardées par des soldats marocains qui, bien souvent, n'hésitent pas à tirer sur les gens qui essaient de traverser. Ce sont des barrières qui sont faites de fils de fer barbelés tranchants où parfois les gens restent coincés, se coupent les jambes, se coupent les pieds, se coupent les bras. Si vous lisez le livre de Mohamed, vous comprendrez que les gens qui traversent ces barrières sont vraiment dans une survie, en fait. Et ils risquent vraiment leur vie pour venir en Europe. C'est pour dire, l'urgence de leur situation et aussi, je pense, beaucoup de leur désespoir quand on met vraiment sa vie en danger pour rejoindre un territoire ou rejoindre une vie meilleure ou juste un petit peu d'espoir. Donc je pense que c'est vraiment un des passages les plus forts du livre.
Il y a presque une opposition entre l'histoire qui est terrible et le côté presque enfantin, très coloré de la façon dont c'est dessiné.
Et je pense aussi que ça fait partie de la magie des dessins, c'est-à-dire que c'est pas un trait qui est maîtrisé, ce sont pas des artistes professionnels, ce sont des gens qui dessinent parce que ils n'ont pas finalement d'autres moyens de communiquer. Enfin, Mohamed en l'occurrence, il s'est d'abord exprimé par le dessin et ensuite il s'est révélé être un écrivain en puissance. Je trouve qu'il a vraiment une verve et un élan qui font de lui un excellent conteur.
Le voyage de Hafez El-Soudani et le journal de Mickaël Vieux sont tous deux disponibles dans une poignée de librairies listées sur le groupe Facebook Dessins sans papier, avec des S à la fin de chaque mot, donc dessins sans et papier. Par ailleurs, une partie des dessins recueillis pendant les ateliers sont actuellement exposés au Musée international des arts modestes à Sète.
Les dernières tragédies ont porté à 5000 le nombre de migrants morts en Méditerranée. Il s'agit du bilan le plus lourd jamais enregistré.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné
Vous écoutez Radio France Internationale, l'atelier des médias. Cette semaine, nous vous faisons découvrir des médias qui donnent la parole aux migrants.
Depuis la halle Pajol, où est né Dessins sans papier, si vous marchez quelques minutes, vous tomberez sur la place Stalingrad et la station de métro qui porte le même nom. C'est ce qui a inspiré l'appellation de Stalingrad Connection, un autre média pensé pour les migrants. Cette fois-ci, il s'agit d'utiliser la radio pour faire entendre les récits de personnes réfugiées.
Stalingrad Connection est une émission de radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer.
Stalingrad Connection, c'est une radio qui a été créée juste après le démantèlement du campement de fortune qui était sous le métro Stalingrad et qui s'étalait un peu partout dans le quartier. Et donc juste après ce démantèlement, on a voulu créer une radio pour essayer de recréer un tissu de communication. L'idée, c'est non seulement de pouvoir mettre en lien des associations, donner des conseils pratiques aux personnes migrantes et demandeuses d'asile, et aussi de pouvoir faire connexion entre différents publics, parce que pour nous, c'est un problème qui concerne tout le monde, le non-accueil des personnes migrantes en France et à Paris notamment.
Stalingrad Connection a été lancée en novembre 2016. Elle est diffusée tous les lundis sur Fréquence Paris Pluriel et en ligne sur un blog d'Arte Radio. Chaque émission est tournée en quatre langues, le français, l'anglais, l'arabe et le dari. Pour en parler, j'ai rencontré Margot Collinet.
L'idée, c'était de ne pas faire une radio faite que par des personnes non migrantes parisiennes, françaises. Et du coup, pour que tout le monde puisse avoir la main sur le contenu éditorial et sur les interviews, etc., que tout le monde puisse participer, c'était assez essentiel que ça soit en plusieurs langues. Donc non seulement au sein de l'équipe, mais après aussi pour le public, pour les gens qui nous écoutent. Mais c'était aussi avant tout pour que, notamment la dernière émission, par exemple, c'est Hassan qui l'a faite. Il a fait une émission sur la communauté Hazara en Afghanistan et au Pakistan, qui est persécutée, dont il vient. Et c'était du coup très important que lui puisse le faire en anglais ou en dari, dans les deux langues, pour pouvoir expliquer au mieux et avoir vraiment la maîtrise du contenu éditorial de son émission.
Pour me présenter le projet Stalingrad Connection, Margot Collinet est venue accompagnée de deux membres actifs de la radio, Hassan Baigi, un réfugié afghan, et la Syrienne Nour Al-Fadel.
Nour, elle travaille dans l'humanitaire et dans le milieu associatif. Hassan, il est, avant d'arriver ici, il est prof d'anglais, et moi je suis linguiste, donc on n'a pas de formation de journalisme. Après, dans l'équipe, il y a d'autres personnes qui ont des formations de journalistes ou qui sont professionnellement, enfin, qui sont des journalistes professionnels, mais c'est pas la majorité de l'équipe. L'idée aussi, c'est de pouvoir faire une radio collaborative. Typiquement, la dernière émission avec Hassan, c'était vraiment lié à une envie de lui depuis longtemps de faire une émission sur la communauté Hazara. Nour, t'avais fait une interview d'une amie à toi, syrienne.
Oui, on a fait aussi juste en interview avec une réfugiée syrienne qui est en France et elle est vraiment motivée, elle voulait continuer ses études et elle arrive pas parce qu'il y a les administrations pour entrer dans une fac, c'est un peu difficile à trouver, elle se trouve seule même, elle parle anglais, elle parle français. Elle a appris le français quand elle est arrivée. Bah donc, on a fait juste un petit interview avec elle, juste pour qu'elle se présente et dise qu'est-ce qu'elle voulait faire en France, pourquoi elle est là et c'est quoi les difficultés qu'elle a trouvées ici en France.
Hassan?
Because I am among the refugees, I live in the refugee camps.
Parce que je vis dans un camp, mon sujet préféré est de parler d'eux. De les interviewer, de parler de leurs problèmes. Quelles sont les difficultés pour obtenir un hébergement en France? De quel genre de services ils et elles manquent? La plupart des réfugiés ont aussi des problèmes pour apprendre le français. Ils n'ont pas l'opportunité de le faire. C'est le genre de service de base qui devrait être fourni aux réfugiés. Et c'est aussi le genre de sujet dont j'aime bien parler.
Stalingrad Connection, c'est pas que attaché à Stalingrad et à Paris, parce que de toute façon, ce qui se passe à Stalingrad, c'est le résultat de plein de choses qui se passent en France quand le camp de Calais a été démantelé. Typiquement, il y a beaucoup de personnes qui se sont du coup rabattues sur Paris et... Enfin, Nour doit savoir mieux que moi puisqu'elle fait plus souvent des maraudes. Et après, essayer de raconter l'histoire des gens et ce qui se passe à Stalingrad, c'est aussi parler, comme l'a fait Hassan, de ce qui se passe en Afghanistan, au Pakistan, de la guerre en Syrie, de plein de choses. Donc forcément, ça nous fait partir ailleurs et ça nous permet d'ouvrir les sujets. On a fait une réunion de fin d'année il n'y a pas longtemps et on était tous assez d'accord pour dire aussi que c'est important de faire archive de ce qui se passe en ce moment, de parler des gens d'une autre manière que ce qu'on peut voir très régulièrement dans les grands médias. On parle généralement pas de personnes mais de flux, d'accidents, de trucs assez tragiques et de ramener ce sujet, cette catastrophe humanitaire à de l'humain et à des histoires de différentes personnes, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important.
Nous avons le devoir de continuer, que nous n'ayons pas honte dans 20 ans, que nous n'ayons pas honte dans 30 ans, parce que nous défendons la vie, malgré qu'ils soient noirs, c'est des gens qui ont le droit à la défense. Ces gens qui ont droit à être protégés. Je finirai sûrement en prison, j'irai en prison. Et j'irai avec dignité, j'irai la tête haute en prison.
Vous écoutez l'atelier des médias et aujourd'hui nous découvrons des projets des médias qui racontent l'exil.
Souvent on entend parler des migrants, comme on dit, comme si c'était une grande masse de personnes, tous pareils, qui venaient d'un endroit, on ne sait vraiment où, ensemble en plus. voilà. Mais on entend peu les personnes migrantes elles-mêmes, c'est-à-dire on entend peu leur voix en fait. On les entend peu dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment.
Lui, c'est Antoine Lalanne-Desmet. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur RFI dans l'émission d'été Les Ondes de l'Exil.
Bonjour à toutes et tous.
Ce que vous savez peut-être moins, c'est que les voix des migrants qu'il vous fait écouter viennent des ateliers Microcamp Radio, qu'il organise avec son association Radioactivité.
Donc Microcamp Radio, en fait, c'est un projet dans lequel on installe des studios radio dans les camps de réfugiés, aussi dans les centres d'accueil. Et après, par un atelier participatif, on laisse les personnes migrantes faire leur propre émission.
Comment ça se passe en atelier de Microcamp?
C'est très simple, on arrive dans des espaces où il y a des personnes migrantes, donc ça peut être des camps de réfugiés, des centres d'accueil. On rassemble ceux qui veulent bien participer, on les met en cercle, et après, pendant l'atelier, ça dure 2, 3, 4 heures. On fait des jeux, c'est très participatif, c'est très animé, et le principe c'est d'arriver à faire une émission de radio. Voilà, tout ça en 2-3 heures. Nous, parce qu'on est plusieurs à le faire, quand on fait les ateliers, on est des facilitateurs. C'est vraiment important d'utiliser ce terme, c'est-à-dire on les anime pas, on n'est pas journaliste, on pose pas de questions. Vraiment, on fait en sorte que chacun se sente à l'aise, que chacun puisse participer, que celui qui est un peu timide, eh bien, il se sente la légitimité de participer. Que celui qui parle un peu trop, eh ben, il écoute les autres. Et tout ça, ça passe par des jeux. C'est très participatif, en fait.
Microcamp Radio.
Armel, moi, j'ai une question à déposer.
Oui.
Et si vous pourriez dîner avec n'importe qui, ce serait qui?
Ouais, si on me propose de faire un choix de dîner avec une personne prestigieuse, je choisirais mon ami Macron.
L'atelier des médias, tous les samedis sur RFI.
Avec les ateliers Microcamp en radio, on a vraiment cette volonté eh bien, de leur donner les clés d'une émission de radio. Et comme ça, eh bien, ils parlent des sujets de leur choix, ils parlent de ce qu'ils veulent, ils en parlent comme ils veulent. Et c'est très important parce que pendant l'atelier, qui se conclut par une émission de radio, nous, les facilitateurs, on n'intervient pas du tout. On pose pas de questions, ce sont leurs propres émissions. C'est eux qui se relancent, c'est eux qui se questionnent. Voilà, donc il y a cette idée de faire entendre les voix, mais aussi il y a l'idée de passer un moment heureux ensemble. Ça vraiment c'est la base de chez Base. C'est-à-dire que nous vraiment, quand on va dans un camp de réfugiés, quand on fait un atelier, on veut que les gens passent un moment heureux. Et vraiment, la radio, c'est super pour ça, parce que les participants se rassemblent, ils discutent entre eux, ils passent un chouette moment, et même ils se posent des questions qu'ils ne se poseraient pas forcément dans leur quotidien. Parce que quand on choisit les sujets ensemble, parfois il y a quelqu'un qui propose l'amour. Bon, bah, allez hop, on fait une émission sur l'amour. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre « qu'est-ce que c'est aimer pour toi ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui t'aime vraiment ?» C'est fort quand même, ce genre de questions. Et puis finalement, on réfléchit, on se les pose. Donc ça nourrit des dialogues. Et voilà. Et ça, c'est souvent, c'est des beaux moments entre les personnes. Donc c'est vraiment le but numéro un, de passer un moment heureux.
لازم هالشي يكون طالع من قلبه بغض النظر عن الأساس الثاني.
Omar thinks that in order for us to define love, or love in general between two people or individuals, have to be friends. And friendship is the most important stage of love.
L'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour. L'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune.
350 personnes interpellées en 4 jours, 25 personnes hospitalisées, l'amour. 5 personnes en prison. Dormir à la rue est illégal aujourd'hui en France quand on est demandeur d'asile, quand on est sans papier.
Nous, on est venus ici pour demander la protection et faire une demande d'asile en France. Ce que je subis, c'est une violence absolument innommable. Tous les jours, la police vient et nous gaze avec du gaz lacrymogène. Tous les jours, à 4h du matin, on nous charge pour arracher nos affaires et pour nous faire partir.
Traité ici comme dans un imam. On est dans la rue. On a appris le français, j'ai des papiers, je parle cette langue. Il n'y a rien là pour moi.
Le visage d'un homme qui n'est ni lui ni l'autre.
Alors il y a un sujet qui revient très souvent, c'est l'éducation. Mais vraiment, expliqué comme ça, l'éducation, on va parler de l'éducation. Mais ça se comprend parce que souvent les personnes qui sont réfugiées, on peut accéder à l'éducation. Ils doivent payer ou bien c'est pas pour eux. Enfin, c'est parce qu'il y a pas de structure, il y a rien. C'est très compliqué quand on arrive dans un pays étranger, tout de suite de rescolariser ses enfants. Alors qu'il y en a beaucoup dans le pays qu'ils ont quitté, ils faisaient des études, ils étaient bien scolarisés. Donc ils se retrouvent dans un autre pays, il n'y a rien. Donc l'éducation est un thème qui revient souvent, mais c'est très varié. Par exemple, on a fait une émission sur les mariages forcés. Ça c'est arrivé, c'est un thème qui est sorti comme ça. C'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé quand on était en Irak, c'était avec des yézidis. Et c'est aussi arrivé là, dernièrement, au Liban. Il y a beaucoup de sujets musicaux, il y a beaucoup de gens qui souhaitent chanter, qui chantent quelque chose. Et forcément, quand on chante, eh bien, ça emmène vers plein d'autres choses, parce qu'on raconte pourquoi on a choisi cette chanson. Et puis souvent, il n'y a pas vraiment de hasard. Quelqu'un qui va chanter une chanson, les autres la connaissent. Il y a des poèmes aussi qui sont dits souvent. Oui, c'est assez varié en fait. Il y a aussi, bien sûr, il y a un des thèmes majeurs qui revient, évidemment, c'est la condition des personnes réfugiées, qui veulent raconter leurs conditions de vie, dans quoi ils vivent aujourd'hui, comment c'est, et aussi pourquoi ils sont partis. Donc ils parlent un petit peu de leur pays, l'Afghanistan, la Syrie, le Cameroun, la République démocratique du Congo, et aussi ils parlent de là, quand ils sont, par exemple là on était en Grèce. Il y en a beaucoup qui en Grèce vivent dans un camp de réfugiés qui s'appelle Moria, qui est sur l'île de Lesbos. Ils y passent des semaines, des mois, voire des années, parce qu'ils ne peuvent pas partir. Et pour vous donner une idée, c'est un camp prévu pour 2000 personnes, il y a 10 000 personnes. Et c'est très dur d'en sortir. Il faut un tampon pour en sortir, et bonne chance pour l'avoir, ce tampon. Ça marche, mais il faut être très très patient. Donc on mange mal dans ce camp, on dort à 10 dans des endroits prévus pour deux. Il y a d'énormes problèmes avec les sanitaires, c'est vraiment très très compliqué. Enfin, quand je dis énormes problèmes, c'est que ça explose en fait. C'est chaque jour, les toilettes explosent. Enfin, vous imaginez ce que c'est quand même. Donc voilà, donc les gens racontent ça.
Tu peux pas sortir la nuit, genre 20h, tu te promènes toute seule. On peut te faire du mal, on peut te violer. Même si on te viole, tu pars là-bas à la police, donc c'est le feu ni chaud ni froid. Mais je sais qu'ici en Europe, un garçon n'a pas le droit de frapper une femme. Mais ici, ça ne concerne même pas. Un garçon a le droit de taper une femme, de faire ceci, cela. Il vit des stress tout le temps.
En fait, moi, je suis allé à l'hôpital et on m'a reçu, c'est vrai. Et on m'a dit, bon, heureusement, il n'y a pas de fracture. Mais vraiment, j'ai très mal. Les professionnels m'ont conseillé de se reposer. Mais moi, je pose la question à tout le monde. Où est-ce que je dois me reposer? Dites-moi. J'ai envie de me reposer, mais où est-ce que je peux me reposer avec la police qui me frappe, qui nous harcèle tout le temps? Je ne peux pas me reposer. Voilà, si j'ai un message à passer à tout le monde, ça sera... la liberté. Moi, vraiment, j'exige, j'ai envie d'avoir une liberté. Et surtout, j'ai une question à poser à la police. Quand je dors le soir, venez me réveiller, demandez-moi de quitter le lieu, de partir. Mais s'il vous plaît, ne me frappez pas, ne me gazez pas directement dans les yeux, parce que maintenant, ça, à plusieurs reprises, mes yeux sont abîmés. Réveillez-moi, mais ne me frappez pas, s'il vous plaît.
Microcam. Adieu. 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 Adieu.
Les personnes réfugiées qu'on rencontre viennent de plein de pays différents. C'est extrêmement varié. Et c'est d'ailleurs très étonnant parce que... Enfin, c'est pas étonnant, mais ça recompose les choses. Parce que quand on ouvre un journal, on voit les migrants sont à Calais, les migrants sont sur l'Aquarius, ils n'arrivent pas à rentrer en Europe, etc. Mais en fait, évidemment que les migrants, c'est plein de personnes différentes. Enfin, c'est une infinité de personnes. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des adolescents, c'est des personnes âgées, des gens qui ont fait des études incroyables, c'est des gens qui n'ont pas fait du tout d'études. C'est tellement varié. C'est des gens qui sont pas sympas, c'est des gens qui sont très sympas. Enfin, en fait, c'est l'humanité. Donc, il y a tout type de gens. Et c'est... voilà. Donc, en fait, quand... on dit qui est-ce qui vient à nos ateliers, c'est extrêmement varié. Déjà, c'est varié au niveau des nationalités. Il y a beaucoup de gens du Moyen-Orient, Syrie, Irak, Jordanie. Il y a beaucoup de gens aussi des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est aussi, l'Afrique de l'Ouest. Enfin, de beaucoup de pays d'Afrique, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Soudan... Et ils viennent tous avec des histoires différentes, des parcours différents, c'est extrêmement varié, et c'est ce qui en fait la richesse. D'ailleurs, j'en profite sans transition, mais il y a quelque chose qui est vraiment fort quand on fait ces ateliers, parce que on pourrait dire, ah, les personnes migrantes, les pauvres, enfin... Et c'est vrai qu'ils vivent dans des conditions de vie très complexes. Déjà, ils partent de leur pays. Partir de son pays, c'est quand même quelque chose d'assez pénible. Parfois, ils partent seuls. Beaucoup préfèrent rester. Ils se retrouvent en Europe ou au Liban. Enfin, ils essaient de reconstruire une vie, mais c'est une complexité terrible. Et ils sont là, et donc ils vivent dans des conditions qui sont quand même très difficiles. Il y en a beaucoup qui vivent à la rue. En France, il y a énormément de personnes migrantes qui vivent à la rue. Mais en fait, quand on fait les ateliers, comme ce sont leurs propres émissions, c'est eux-mêmes qui choisissent les sujets, ce qu'ils disent, mais c'est d'une puissance. Enfin, vous écouterez dans la série d'été, sur RFI, Les Ondes de l'Exil. Mais il y a des gens qui font preuve d'une résilience, mais humainement, c'est impressionnant. C'est-à-dire que une des choses qui est difficile, c'est outre les traumatismes qu'on peut avoir vécu et qu'on vit au quotidien, quand on est une personne qui se déplace, et il ne faut pas sombrer dans la dépression. Parce qu'il y a tout à reconstruire, aucune porte ne s'ouvre, et souvent, en plus, on n'a rien à faire. Quand on est dans un camp de réfugiés, il n'y a rien à faire. Enfin, donc, il ne faut pas tomber dans la dépression. Et il y a certaines personnes qui arrivent à s'en sortir, qui sont fortes, qui ont une force intérieure et qui disent des choses. Mais c'est vraiment puissant, c'est hyper inspirant, c'est très inspirant. C'est un souffle de vie. Ça émerge dans les ateliers parce que les gens s'interrogent. Il y en a qui racontent des choses difficiles parfois. Et il y a un autre participant qui va réconforter la personne. Et ils ont un souffle de vie, un espoir, enfin, c'est vraiment, c'est fort. Hein.
Moi ça me dépasse en fait, quand j'écoute cette chanson, ça me fait pleurer. Vous ne voyez pas mes larmes couler, mais je pleure dans le cœur, parce que ça me touche.
Ouais, elle coule à l'intérieur. Merci, on va passer à l'action, on va écouter le son.
http://atelier.rfi.fr
L'atelier des médias, et aujourd'hui nous découvrons des projets des médias qui racontent l'exil.
Question très pragmatique, mais d'un point de vue langue, comment se fait la communication? Parce que puisqu'il y a autant de nationalités, est-ce que tout le monde parle en anglais ou...
Pour la langue, c'est très varié aussi. Souvent, on avait des traducteurs avec nous. Alors l'idéal, c'est quand on fait un atelier, que les personnes aient une langue commune. En général, ça peut être l'anglais, le français aussi, c'est arrivé plusieurs fois, l'arabe. Quand ils n'ont pas de langue commune entre eux, c'est très compliqué. Mais ça marche. Je pense à une émission qu'on a fait au Liban. Il y avait des personnes de 5 ou 6 nationalités différentes. Il y avait des personnes d'Éthiopie, du Sri Lanka, du Liban, de Syrie, du Soudan. Et en fait, ils ont parlé en arabe, tous ensemble. Nous, on avait un traducteur qui nous traduisait, comme ça on savait ce qui se passait. Et ça permettait de les orienter pour expliquer comment on sert d'un micro, des choses très simples comme ça. Et c'était super beau. C'était en arabe. Quand quelqu'un ne comprenait pas quelque chose en arabe, on le retraduisait dans une langue locale. Parce que selon les pays, les gens avaient des langues un peu différentes. La langue, ça peut être une contrainte, mais pas toujours en fait. Finalement, on arrive toujours à se faire comprendre.
Et du coup, c'est diffusé où une fois que c'est enregistré? Ou pendant l'enregistrement même?
Alors, pendant l'atelier, on fait une émission de radio en direct. Et elle est diffusée sur notre page Facebook, Microcamp Radio. L'intérêt, c'est que les personnes peuvent réagir en direct, puisqu'on a marqué live, direct. Donc quelqu'un qui est connecté à Facebook peut entendre l'émission en direct. Et là, c'est super, parce que comme on est allé dans plein de pays différents, eh bien, quand on était au Liban, par exemple, il y avait des gens qui nous écoutaient en Grèce, depuis des camps de réfugiés d'ailleurs. Il y a des gens qui nous écoutent en France et qui réagissent, qui commentent. Donc quand on peut, dans l'émission, on réagit aux commentaires en direct. Donc principalement sur cette page Facebook et bien sûr tout cet été sur RFI, dans les ondes de l'exil.
L'association Radioactivité qui a fondé Microcamp organise des ateliers radio dans les écoles, les théâtres, les centres d'accueil ou les prisons. Son projet Microcamp est celui qui s'adresse particulièrement aux migrants. Prochaine étape pour ce projet, un tour d'Italie en septembre pour réunir autour du micro les personnes qui ont acquis le statut de réfugiés et les villageois qui les ont accueillis. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les extraits de certains ateliers Microcamp sur RFI cet été dans les ondes de l'exil le samedi après-midi.
Vraiment, un des principes de Radioactivité et de Microcamp, c'est de faire se rencontrer des personnes qui partagent un même territoire. Et ça, la radio, c'est parfait pour ça. De faire se rassembler des gens qui partagent un même territoire et qui ne se connaissent pas forcément. Alors, on le fait pas tout le temps. Parfois, quand on va dans un camp de réfugiés, qu'on installe un petit studio, c'est des gens qui se connaissent déjà. On a senti ça, en fait, dans l'équipe, que ouais, la radio, il y a vraiment quelque chose d'assez fort pour créer des dynamiques collectives, faire se rassembler les gens, passer un moment ensemble, passer un moment heureux parce qu'on parle de soi, on interroge les autres et on crée quelque chose. Puisqu'en fait, cet atelier, en 2, 3, 4 heures, les gens, à la fin, ils ont fait une émission de radio qu'ils peuvent réécouter directement, qui est disponible, qu'ils peuvent faire circuler. C'est chouette.
La question de l'exil ne se cantonne pas au camp où sont réunis les réfugiés. Une fois que ceux-ci ont acquis le statut qui leur permet de s'installer dans un nouveau pays, ils doivent encore, souvent, lutter pour trouver un travail ou surmonter les préjugés. Leur situation est différente aussi selon le pays qui les accueille. MediaFugees est une plateforme en ligne qui cherche à réunir les voix de ces personnes qui ne sont plus nécessairement installées dans un camp, mais vivent tout de même loin de leur pays natal.
Bah en gros, c'est une plateforme sur Internet, multimédia, où tout le contenu est produit par des personnes qui ont vécu l'exil. Ça peut être des articles, des vidéos, de la photo. Ce projet, il est parti du constat qu'on a eu avec Camille Test, qui a cofondé le site, depuis 2015, on entend parler des migrants, des exilés, etc., constamment dans les médias. Or, les personnes qu'on n'entend jamais, c'est les personnes concernées par l'exil, justement. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir des gens qui donnent leur point de vue, des politiques, des journalistes, des experts, mais jamais les personnes qui ont été aux premières loges de ces expériences-là. Et du coup, sur le site MediaFugees, il y a différentes productions, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus des témoignages, donc ça va être des textes à la première personne, avec des témoignages d'expériences vécues par rapport à l'exil, ou sinon des articles plus classiques, journalistiques, d'analyse sur l'actualité, etc.
Le site de MediaFugees est très coloré. Derrière chaque article, on trouve un fond bleu électrique, vert pomme ou bien rose. Un design qui véhicule une certaine dose d'énergie. Les productions des contributeurs, elles, sont classées en trois catégories. Dans Actualité, on retrouve des articles journalistiques traditionnels et quelques caricatures de dessinateurs de presse. La deuxième rubrique s'appelle Récit. La place y est laissée au format plus long où les personnes qui vivent l'exil racontent leur voyage ou leur vie dans un pays d'accueil. Expression, enfin, est le lieu où les contributeurs ont carte blanche. Ils, elles, peuvent publier des textes littéraires. C'est le choix qu'a fait, par exemple, l'auteur syrienne Abir Asber avec un écrit intitulé « Chercher l'asile, se contenter du strict minimum ».
MediaFugees vient aussi de lancer une série de vidéos intitulée « Laissons leur voix porter ». On y entend des migrants installés au Québec expliquer l'une des facettes de leur situation.
Les nouveaux arrivants ressentent un sens de culpabilité pour avoir quitté leur famille dans leur terre d'accueil et aussi parce qu'ils veulent venir ici prouver qu'ils ont une partie contribuante puis une partie intégrale de la société. Ils veulent contribuer à cette société d'accueil. Or, ces personnes qui ont quitté, qui ont pris refuge, c'est pas parce qu'ils sont réveillés un matin qu'ils ont dit « Tiens, j'ai envie de traverser une frontière avec rien, je vais tout laisser mes biens, ma famille, tout ce que j'ai déjà construit pour venir ici. »
les personnes qui vont écrire pour Media Fujis, il va y avoir plein de profils différents. Ça va être des personnes qui ont récemment été exilées, qui sont souvent dans des situations très compliquées au niveau matériel, tout simplement. D'autres qui sont là depuis plus longue date, donc on a par exemple des écrivains, on a des autrices qui ont écrit, on a des activistes, il peut y avoir des militants, ou des personnes, comme on dit, normales, qui simplement témoignent sur les difficultés liées à leur exil, quoi. C'est-à-dire que la condition qu'on a établie pour pouvoir écrire sur Media Fujis, c'est d'avoir vécu l'exil. Alors ça peut être il y a longtemps ou aujourd'hui. Et pourquoi on a décidé d'avoir ce critère exclusif? C'est tout simplement pour ce constat qu'on a établi que ces personnes ont rarement la parole. Donc je veux dire, il y a quand même des plateformes médiatiques, il y en a en quantité énorme. Pourtant, eux n'ont leur voix pratiquement nulle part. Du coup, on s'est dit, bah, cet espace-là, il va leur être totalement réservé.
Il y a qui derrière Media Fujis?
Alors, derrière Media Fujis, il y a moi-même et Camille Test, qui est à Montréal. Elle est française, mais elle habite à Montréal. Et c'est nous qui gérons le site pour l'instant. Donc nous, on est évidemment dans ce qu'on pourrait appeler de la coordination, de l'administratif. On ne produit pas nous-mêmes d'articles pour Media Fujis. Mais l'objectif, c'est vraiment à terme qu'on arrive à avoir les ressources financières, parce que c'est aussi à propos de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire travailler des journalistes sans les payer. Si on arrive à avoir les ressources et les aides pour nous permettre de, par exemple, salarier quelqu'un, on adorerait, et c'est d'ailleurs l'objectif de Media Fujis, que par exemple recruter un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef qui soit exilée et journaliste et qui puisse prendre en main la main éditoriale. Donc clairement, on n'est pas dans l'aboutissement de notre projet encore, mais par manque de ressources. Donc pour l'instant, c'est nous deux qui avons du temps et qui nous consacrons du temps, mais on aimerait vraiment se dessaisir même de la ligne éditoriale, parce que là, forcément, on a une main dessus.
Vous promouvez aussi le self-journalism, c'est quoi ?
En fait, cette idée de self-journalism, ou d'auto-journalisme, c'est cette idée que les personnes dont on parle, quand on parle d'enjeux politiques, mais qu'ils soient, donc là par rapport à la migration, mais là on peut parler de féminisme, d'antiracisme, des droits LGBT, etc. Ces personnes, ces groupes, ne peuvent pas être que des objets étudiés. Ils peuvent être des sujets parlants. Et à travers le journalisme également. C'est que moi, je trouve ça très intéressant, par exemple, qu'au lieu de tendre un micro à un migrant ou à une personne exilée à Calais et poser toujours les mêmes questions, bah, moi, je trouve ça pertinent qu'en fait, le journaliste qui aille tendre ce micro ait lui-même vécu l'exil. Et qu'il y a un peu un mythe autour de l'objectivité du journaliste. Et d'ailleurs, les journalistes objectifs, qui seraient objectifs en tout cas, se ressemblent tous. Donc je pense qu'en mettant plus de diversité, hein, même si ce mot, bon, il faut qu'il y ait une meilleure représentation de la société elle-même. Et que les gens concernés par des problèmes, c'est pas des petits-enfants qu'il faut sauver, il faut les aider. Mais les aider, c'est aussi en fait leur permettre de nous donner leurs propres analyses sur ce qu'ils ont vécu eux-mêmes.
Si les questions liées à la migration vous intéressent, sachez qu'il existe un site porté notamment par France Média Monde, le groupe de RFI. Son nom est Info Migrant. Si vous connaissez d'autres médias qui donnent la parole aux personnes réfugiées, n'hésitez pas à nous les signaler sur les réseaux sociaux.
Des médias pour dire l'exil, c'était une émission de Mathilde Saliou, Simon de Creuse, Ziad Malouf pour l'atelier des médias en coulisses, Léo Caravagna et Camille Deloche. Vous pouvez retrouver les sites web et les pages Facebook des quatre médias évoqués aujourd'hui sur la page de l'atelier des médias, des cinq d'ailleurs, puisque nous avons mentionné Info Migrant à la fin de l'émission. Pour nous réentendre, n'hésitez pas à penser podcast. Il existe des dizaines d'applications qui vous permettent de vous abonner à vos émissions préférées, de télécharger les épisodes que vous souhaitez écouter hors connexion. Salut à toutes et à tous.